tester les limites du corps humain lors d'une soixantaine d'expéditions dans les milieux les plus hostiles de la planète. En 2011, par exemple, vous avez passé 20 jours dans un désert iranien réputé comme étant l'endroit le plus aride sur Terre, où les températures dépassent les 58 degrés à l'ombre. Alors, on ne sera pas demain dans ce cas de figure, mais tout de même, il y a les différents rapports du GIEC, Copernicus, qui émettent l'hypothèse que les températures pourraient augmenter de plus de 5 degrés d'ici à la fin du siècle. D'autres rapports sont même encore plus pessimistes. Alors, Christian Claude, on a d'abord envie de vous demander, au vu de toutes vos recherches, quel est, selon vous, l'impact que peut avoir la chaleur sur les êtres humains?
Alors, malheureusement, il est relativement important, cet impact. Il touche trois domaines. Il y a la partie physiologique, ça on la connaît, on transpire plus, on est plus fatigué, on se sent moins capable de faire des choses. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu et puis qui, malheureusement, va provoquer des maladies potentielles si on ne fait pas attention. La deuxième chose qui est moins connue, c'est les impacts sur le cerveau. C'est-à-dire qu'on a vraiment une dégradation de la compétence cognitive, tout simplement parce que le cerveau cherche à se maintenir à 36,5, 37 degrés et que comme il fait chaud à l'extérieur, il doit beaucoup lutter pour le faire. Pour ça, il va devoir dégrader un peu son fonctionnement pour éviter de trop travailler. Donc, il va éliminer des compétences. On va perdre un petit peu la mémoire à court terme. Et puis, petit à petit, on va être moins capable de faire des actions complexes, d'être fin dans sa manipulation, de pouvoir faire des calculs. Et puis, enfin, on va dégrader sa compétence sociale parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et là, on est vraiment dans ce qui est le troisième effet de la chaleur, c'est qu'on a moins envie d'être en société quand il fait très chaud et on a moins envie de travailler avec les autres. Et ça, c'est un impact qui peut être assez embêtant quand on a besoin de coopérer dans des conditions un peu difficiles et c'est quelque chose sur lequel on va devoir beaucoup travailler.
Est-ce que cet impact, il est le même pour tout le monde?
Alors, non, il y a une grande variabilité inter-individuelle face à la chaleur. On n'a pas tous la même réaction, on n'a pas tous les mêmes compétences. Il y a une partie qui est innée, malheureusement, c'est comme ça, on ne peut pas aller contre. Et puis il y a toute une partie aussi d'entraînement et surtout de manière de boire. On voit quand même que quand il fait chaud, il y a beaucoup de monde qui est déshydraté parce qu'en fait, on n'apprend pas à boire dans nos pays. C'est pas quelque chose qui est habituel pour nous. Et donc, on ne boit soit pas assez, soit pas forcément bien. Par exemple, on boit beaucoup d'eau, mais on n'a pas assez de sels minéraux dans le corps. Donc, en fait, on n'assimile pas l'eau. Donc, il y a tout un entraînement à la manière de s'hydrater à la chaleur.
Oui, vous dites qu'il faut réapprendre à boire. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on boit correctement quand il fait chaud?
Alors déjà, il faut éliminer cette idée qu'on ne doit boire qu'un litre et demi ou deux litres par jour, comme on entend un peu parfois, parce que boire au-delà, ça mettrait en danger nos reins. Quand il fait très chaud, il faut boire plus que 2 litres, jusqu'à 3, voire 4 litres. Mais en revanche, il faut boire de l'eau qui est minéralisée, à savoir qu'il y a suffisamment de sels minéraux dedans, par exemple un tout petit peu de sel ou de ce qu'on appelle les électrolytes, parce que sinon, effectivement, il y a une dégradation du sodium dans les reins et on n'arrive pas à assimiler l'eau complètement. Et là, les reins peuvent se mettre en danger. Donc effectivement, il y a tout un apprentissage, ça paraît un peu bizarre de devoir réapprendre à boire, mais face à la chaleur, c'est une nécessité.
Femmes, hommes, est-ce que là aussi il y a des différences face à la chaleur, les corps réagissent différemment?
Alors oui, il y a des petites différences physiologiques. Par exemple, les femmes ont des glandes sudoripares qui permettent de transpirer justement légèrement plus petites, ce qui peut expliquer une moins bonne transpiration face à la chaleur. Mais il y a d'autres facteurs beaucoup plus sociétaux, notamment par exemple les femmes boivent moins que les hommes. Et ça, c'est bien de la scolarité, parce que dans beaucoup de cadres, dans les écoles, les toilettes sont sales. Et comme les filles sont obligées de s'asseoir, elles n'ont pas envie de le faire. Donc elles se restreignent de boire pour ne pas devoir aller aux toilettes. Et donc elles perdent l'habitude de boire. Donc on voit vraiment qu'on a des phénomènes sociétaux qui impactent la chaleur sur le genre. Et puis il y a aussi l'impact que souvent ce sont les femmes qui font le plus d'actions nécessaires, faire les courses, s'occuper des enfants et autres, ce qui a un augmentant de la chaleur assez important. Donc oui, il y a une différence de genre, mais qui n'est pas que physiologique, qui est aussi sociétale.
Dans vos recherches, vous dites aussi, on fait souvent attention aux personnes âgées dans ce genre de situation quand il fait très chaud, mais on oublie souvent aussi les 18-35 ans. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'on pense que les 18-35 ans sont en bonne forme, qu'ils vont bien, qu'il n'y a pas tellement de problèmes et puis qu'ils sont pas en danger face à la chaleur. Malheureusement, c'est pas le cas. Quand les températures dépassent 32-33 degrés, et puis évidemment, plus ça va, plus c'est impactant, eh bien, les jeunes, souvent, sont moins considérants de la chaleur. Donc, ils vont continuer de vouloir agir comme si de rien n'était, ils vont continuer de faire du sport, de faire des choses du quotidien. Et malheureusement, on voit aujourd'hui dans les hospitalisations que si effectivement, il y a environ 65-66% de personnes âgées ou très très jeunes, eh bien le reste, ce qui représente quand même plus de 30%, ce sont des jeunes qui font des erreurs à la chaleur. C'est pas qu'ils sont donc moins compétents à la chaleur, c'est qu'ils font plus de choses qui les dégradent dans ces conditions. Donc il faut faire vraiment très attention, ça touche tout le monde. Alors au-delà de 40 degrés, là c'est vraiment le 100% de la population qui est impactée, et ce, partout dans le monde. C'est pas parce qu'on vit dans un pays chaud qu'on n'est pas impacté par la chaleur, par exemple.
On a bien compris quel est l'impact de la chaleur sur les êtres humains. Est-ce qu'il est possible, Christian Klock, de s'adapter d'une certaine manière ? Est-ce que nos corps peuvent évoluer pour s'adapter à cette situation ?
Alors très peu. Il n'y a pas une véritable adaptation à la chaleur, une adaptation qui signifie une transformation en profondeur, de manière pérenne, de certains de nos organes. Ça, ce n'est pas vrai. Alors ce sera peut-être vrai dans quelques centaines d'années. Aujourd'hui, non, on n'a pas d'adaptation. On s'acclimate à la chaleur. Donc c'est vrai qu'au début de la chaleur, notre corps va commencer à réagir. Il va peut-être augmenter un tout petit peu la taille des glandes sudoripares. Il va modifier sa manière de faire circuler le sang. Donc on a une légère acclimatation qui va disparaître quand la chaleur disparaît. Il faudra recommencer à la prochaine chaleur. Mais cette acclimatation, elle est assez faible, et lorsque les températures encore une fois dépassent les 40 degrés, il n'y a plus de vraie acclimatation. La seule vraie adaptation à la chaleur qu'on peut avoir, c'est une adaptation sociale, par exemple de changer les horaires de travail, de moins faire d'efforts l'après-midi et autres solutions de ce type-là.
On va en arriver aux solutions dans quelques instants, mais est-ce que ça veut dire que d'autres populations qui vivent plus dans le sud, qui ont plus l'habitude d'être confrontées à des températures élevées que nous, populations plutôt du nord, est-ce qu'elles ne sont pas plus adaptées que nous finalement ?
Alors elles sont plus habituées, donc elles vont moins faire d'erreurs à la chaleur, mais leur corps est lui aussi soumis à la chaleur. Alors comme je vous le disais, elles ont une acclimatation qui se fait souvent plus tôt en saison parce qu'il fait plus chaud dès les mois d'avril-mai. Mais la réalité, c'est qu'on le voit même dans des pays où il fait déjà très chaud, comme le Pakistan, le Mexique, l'Inde. Eh bien lorsque les températures augmentent, les populations sont terriblement impactées, la quantité de mortalité est largement en augmentation. Donc malheureusement non, l'humain n'est pas fait pour vivre dans des très grandes chaleurs, et seules les adaptations sociétales et technologiques le permettent.
Christian Klock, on a beaucoup parlé ici de vigilance individuelle, de nos organismes aussi, la manière dont ils réagissent. Difficile tout de même de dissocier tout cela des décisions politiques et des changements structurels. Si vous deviez épingler les changements prioritaires à mettre en place au niveau collectif, vous diriez quoi ?
Alors, il y en a deux qui sont très claires. La première, c'est vraiment le changement des horaires de vie. Pas seulement des horaires de travail. Il faut que tous les horaires changent. Par exemple, quand les chaleurs arrivent, on pourrait dire que de 1er juin jusqu'au 30 septembre, eh bien, on recule de 2, voire de 3 heures nos horaires habituels. Si on commence habituellement l'école à 8 heures, bah pourquoi pas la commencer à 6 heures, et ainsi de suite. Donc vraiment, tout changer les horaires de vie pendant la période de chaleur, c'est la seule solution facile à mettre en place, qui ne coûte rien et qui permet vraiment de lutter contre la chaleur pour ne pas devoir travailler l'après-midi. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est clairement l'éducation. Il faut absolument que les écoles intègrent l'éducation à la chaleur dès le plus jeune âge. Dès qu'on a 5 ans, on peut comprendre les choses. Et donc, il faut que l'éducation s'adapte au changement climatique également.
Est-ce qu'on a déjà vu des changements de cette sorte quelque part dans le monde, dans des pays qui sont proches ou éloignés ?
Oui, il y a des pays qui ont commencé vraiment à travailler sur ces notions-là. Alors, certains pays qui sont moins connus peut-être, mais le Rwanda, par exemple, fait un gros travail pour que l'environnement soit intégré au quotidien des populations et de la vie de tous les jours, avec une éducation qui a été adaptée, des réglementations qui ont été adaptées, l'inclusion de l'environnement dans la Constitution. On a des pays comme le Canada, la Finlande aussi, qui ont commencé à intégrer vraiment ces notions-là avec une éducation beaucoup plus spécifique. Et puis, on a d'autres cas de figure, comme des pays comme le Japon, c'est pas pour la chaleur, mais par exemple, ils ont intégré dès l'éducation des enfants les tremblements de terre et la réaction aux tremblements de terre parce que c'est fréquent chez eux. Et ben, on va devoir faire le même principe chez nous pour la chaleur.
Est-ce qu'on voit un début de changement chez nous ou on en est loin ?
J'aimerais vous dire que oui, parce que ce serait positif, mais on en est malheureusement très loin. Aujourd'hui, nos pays n'ont pas encore compris les enjeux, l'ampleur. On voit encore que, alors qu'on est en pleine canicule, qu'on a des feux de forêt dans tous les sens, malheureusement, et qu'on a des impacts terribles dus à ce dérèglement climatique, eh bien, on voit encore des réglementations qui passent, qui sont totalement à l'opposé du besoin. On voit encore que la nature n'est pas considérée dans notre quotidien. Et on a un travail énorme à faire. Alors, je dirais que ça, c'est pour les gouvernements et la politique. Je dirais que dans la population générale, en revanche, et dans les entreprises, il y a quand même des véritables prises en compte. Et je pense qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer, j'allais dire, par le bas, plutôt que par les décisions politiques.
Est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'êtres humains particuliers, changer nos comportements facilement ?
Non, c'est difficile de changer un comportement, on le sait, sinon tout irait déjà différemment. Changer un comportement, ça veut dire déjà faire le deuil de ce qu'on aimait avant ou de ce qu'on faisait habituellement avant pour créer une autre méthodologie de fonctionnement. C'est tout un travail cognitif, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, de l'effort. Donc changer des comportements, c'est toujours difficile. En revanche, c'est vraiment possible. Et pour ça, il faut la conjonction à la fois de décisions politiques, d'une éducation bien spécifique et d'un soutien des personnes qui nous entourent. Parce que le faire tout seul, c'est extrêmement difficile. Donc il faut vraiment qu'il y ait un changement comportemental qui est sociétal, avec un peu les gens autour de nous qui font le même changement. Sinon, c'est vraiment très compliqué.
Un élément que l'on a tendance à oublier aussi, Christian Clos, ce sont les machines avec la chaleur. On a observé, y compris chez nous, des pannes électriques lors de la dernière vague de canicule. De ce côté-là, est-ce que nos gouvernements ils peuvent faire quelque chose ?
Oui, évidemment, il y a des décisions à prendre par rapport aux services prioritaires, hein, les transports, l'école, l'hôpital et tout ce qui va autour. Il va falloir décider des investissements qu'on veut faire. C'est quelque chose qui est fondamental parce qu'il faudrait des milliers de milliards pour mettre nos infrastructures en adéquation avec les conditions de chaleur futures. On les a pas, ces milliers de milliards. On n'a pas non plus beaucoup de temps. Donc il faut faire des choix. Et ces choix, je dirais que bien sûr, c'est les politiques qui doivent les faire, mais les citoyens et les citoyennes ont leur mot à dire. On vient de lancer une grande étude participative avec le Human Adaptation Institute, que vous pouvez participer à cette étude pour essayer de savoir finalement qu'est-ce qu'on est prêt à accepter lorsqu'il y a des grandes canicules, de ne pas avoir fonctionné correctement. Est-ce qu'on veut que tous les trains fonctionnent ou est-ce qu'on préfère que ce soit les écoles, les hôpitaux? Enfin, tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser et c'est des décisions qui devront être prises, bien entendu, communément. Mais je dirais qu'il n'y a pas que les infrastructures et les humains, il y a aussi tous les animaux. Et les animaux sont encore moins adaptables que nous à la chaleur. Quant aux plantes, on n'en parle même pas. Donc on peut bien sûr trouver toutes les solutions pour adapter pour les humains, mais c'est en réalité un changement profond d'accord avec la nature qu'on va devoir trouver, d'habitabilité entre humain et nature, parce que malheureusement, sans nature, sans arbres et sans insectes, l'humain ne pourrait pas survivre.
Selon vous, Christian Clos, combien de temps est-ce qu'il faut pour effectuer ces changements profonds dont vous parlez? Est-ce qu'on a encore le temps de le faire avant d'être confronté aux situations problématiques?
Alors soyons clairs, on sera confronté à des situations difficiles. Maintenant, bien entendu, on peut changer pour éviter qu'elles soient trop extrêmes. Et ben, les changements, quand ils sont pris en compte vraiment de manière profonde, il faut environ 4 à 5 ans pour un pays de mettre en place des changements profonds. Mais pour ça, il faut la conjoncture, d'une part, de décisions politiques fortes, du changement profond de l'éducation, tout passe par l'éducation, hein, vraiment des 5-12 ans. Quand on éduque bien les 5-12 ans, ça ruisselle sur l'ensemble de la population parce que un enfant influence 5 à 7 adultes. Ça, c'est quelque chose de très, très documenté scientifiquement. Et puis, il faut évidemment ensuite des moyens financiers placés au bon endroit. Et ça, c'est des décisions qui doivent être prises aujourd'hui pour que justement on entame vraiment ces changements. Le plus dur étant le changement des éducations. Parce qu'il faut vraiment changer des programmes en entier. Merci. Et ça, malheureusement, je ne vois pas la piste dans nos pays.
Merci beaucoup, Christian Clos, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Oui.